RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story autour de la table. Aujourd'hui, Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo et le médecin généraliste Jérôme Marty. Vous savez que demain, nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. On a décidé de vous gâter. RMC, la radio officielle des JO, on va vous offrir 100 places. Dès maintenant, hein, il faut jouer en envoyant Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Il y a des places pour la cérémonie d'ouverture, pour la finale du 100 mètres, pour le judo, le tennis de table, pour la natation. Des places introuvables, mais RMC s'est procuré ces places pour vous les faire
gagner. Il n'y aura pas comment.
Tout au long de la semaine. Parce que nous, RMC, on est bien placés, je suis désolé. Et on a fait venir le président de la République hier au Grand Palais.
Et voilà, ça sent.
On a les places.
Et voilà.
Mais non, parce qu'on est radio officielle des JO, parce que RMC, c'est la radio du sport. Et voilà, il n'y a pas d'autre radio qu'RMC pour écouter le sport tous les jours. Enfin, donc, si vous voulez jouer, c'est maintenant au 7-32-16. Envoyez Paris 2024, la gagnante ou le gagnant, à 11h20 en direct dans les grandes gueules. On va revenir sur la hausse de la mortalité routière. Elle est inquiétante, avec une forte augmentation au mois de mars, 31% de plus par rapport à l'année dernière. En cause, selon certaines associations de prévention routière, la suppression du retrait de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h qui est entré en vigueur. Ça avait été voulu par Gérald Darmanin. Et selon ces associations, c'est à cause de cela que certains se lâchent sur la route. Est-ce la bonne raison ? On en discute avec les grandes gueules tout de suite.
RMC, les grandes gueules.
Ce n'est pas une politique de sécurité routière, c'est une politique d'insécurité routière parce que tous les experts étaient clairs sur ce sujet. Le fait d'assouplir le permis à points est une très mauvaise mesure parce que ça envoie un mauvais signal à la population. Ça veut dire clairement, nous ne nous occupons plus de la sécurité routière. Il y a eu des propos très clairs du style « il faut arrêter d'emmerder les Français, les Français adorent la bagnole ». Voilà, tous ces signaux, si vous voulez, renvoient à la population le fait que la sécurité routière n'est plus une priorité alors que la situation se dégrade, alors qu'elle reste la première cause de mortalité de nos jeunes.
Voilà, ça c'est le vice-président de la Ligue contre les violences routières. Alors c'est vrai que les chiffres ne sont pas bons. 31% donc de morts sur les routes en plus par rapport à mars de l'année dernière. Les principales victimes sont les 18-24 ans, 40 décès dans cette tranche d'âge en mars 2024. C'est 23 de plus que l'an dernier. Il y a eu notamment ce week-end dans le département du Tarn, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, à Saint-Sulpice-la-Pointe, un jeune qui a perdu la vie sur la route. Et c'est vrai que chaque week-end, il y a des jeunes qui se blessent ou qui meurent sur la route. Et donc, il y aurait un lien entre ce qui a été annoncé, la fin de ce retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h et ces accidents. Est-ce que vous faites ce lien? En gros,
c'est
le permis de rouler plus vite.
5 km, faut pas découper.
Dans ce cas, pourquoi ne nous explique-t-il pas l'effet non dissuasif, finalement, de la transformation en homicides routiers? Puisque maintenant, on a une nouvelle appellation, l'homicide routier. Donc, on aurait pu se dire, ça va dissuader les gens. Non, ça ne dissuade pas plus les gens. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des facteurs qui encouragent et des facteurs qui dissuadent. Je crois qu'il y a une problématique de vitesse excessive sur les routes, puisqu'on sait que les facteurs, c'est vitesse excessive et deuxième cause, c'est alcool stupéfiant. Voilà. Donc, la vitesse excessive, à quoi est-elle liée? Je suis désolée, 90%, c'est les facteurs humains, c'est-à-dire les gens, effectivement, roulent trop vite. Et c'est pas parce qu'ils roulent à 55 au lieu de 50 qu'il y a des accidents mortels, c'est parce qu'ils roulent au-delà des 110, au-delà des 120. Et donc là, ça pose une autre question, qui est une question statistique. 78% des victimes des accidents de la route sont des hommes et 84% des responsables des accidents mortels sont des hommes.
C'est vrai. Donc il y a un comportement masculin sur la route.
Et j'en témoigne, puisque lorsque j'ai fait le stage de récupération de points, j'étais la seule femme. Mmh. On était à peu près 35. J'étais la seule femme.
J'en ai fait une fois,
c'était que des hommes. Voilà, donc on a une problématique qui est une problématique proprement humaine, c'est-à-dire que les hommes, quand ils sont dans leur voiture, vroom, 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 vroom.
Ça n'a rien à voir avec
Olivier.
C'est une question de comportement, avis, d'éducation et aussi au moment.
On parle des jeunes en plus.
Au moment, l'éducation et au moment de l'apprentissage du permis de conduire. Mais on voit en plus maintenant, même dans l'apprentissage du permis de conduire, ça s'est tellement transformé que même cette dimension éducative, à mon avis, n'existe plus.
D'abord, rappelez qu'en mars, il y a eu 5 week-ends. pour un peu atténuer les chiffres, ce qui veut dire que parce que les week-ends sont assez meurtriers malheureusement. Donc
c'est peut-être conjoncturel, tu veux dire.
La mai va pas être jolie.
Mais pour moi, alors il y a un élément. On parle d'alcool, on parle de drogue, qui sont des éléments qu'on peut détecter.
La drogue, c'est plus compliqué. Hein.
Et il y a un élément qui a fait son apparition depuis quelques années et qu'on ne peut pas détecter, et qui, à mon avis, s'est généralisé, et qui est cause de beaucoup d'accidents. Alors, il y en a qui sont évités, mais de beaucoup d'accidents.
Le portable.
Ça s'appelle le téléphone portable.
Et oui, aussi.
On croise tous les jours des maillons où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche, il va à droite. Et quand on le dépasse, on se rend compte que le mec, il est en train de regarder son portable SMS. Et ça devient très, très, très dangereux. Ouais. C'est un élément nouveau.
Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec la vitesse.
Qui, ici, autour de cette table, n'a pas regardé son téléphone portable au volant? Qui, ici, autour de cette table, n'a pas, à un moment donné, se rendu compte qu'il avait fait un écart parce qu'il était en train de regarder son téléphone volant? On a eu la chance. Il n'y avait personne en face. Il aurait pu y avoir quelqu'un en face et ça aurait pu être un accident. Et vis-à-vis du téléphone, il faut vraiment durcir la loi. Et vis-à-vis, effectivement, de l'alcool ou des gens qui prennent le volant en état alcoolisé, il faut une répression très sévère et très dissuasive, ce qui n'est pas encore le cas.
C'est loin d'être...
Quand on aura réglé ces deux problèmes, c'est pas les 5 km à l'heure en plus, c'est pas la vitesse. C'est parce que la vitesse est dangereuse, qu'il n'y a absolument aucun contrôle à 90 ou à 95. Si on n'a pas de contrôle, on est dangereux. Si on est en contrôle parce qu'on est à 100% de ses capacités, on n'a pas bu, on n'a pas un téléphone, normalement, on doit pouvoir le gérer.
La question, est-ce qu'il faut revenir sur la suppression du retrait de points? Lorsque vous avez un excès de vitesse inférieur à 5 km/h, vous payez quand même l'amende. Hein,
mais c'est une amende.
Mais il n'y a pas le point retiré. Est-ce qu'il faut remettre le point retiré?
Mais non, surtout que c'était sur les petites vitesses.
Là, on parle quand même de
80
sur un mois. Donc d'abord, il faut qu'on ait plus d'éléments que sur un mois. Pour autant, si on regarde la tranche des 18-24 ans, ça a été doublé. Par rapport à l'année précédente. C'est doublé.
Plus 24,
40, il y en avait 24
morts en un mois.
Voilà,
chez les
18-24. Mais c'est le double de l'année précédente.
Oui.
Mais quelle est la particularité des 18-24? C'est que beaucoup d'entre eux sont des jeunes conducteurs. Les jeunes conducteurs, ils débutent avec 6 points, pas avec 12.
Oui.
Donc ils ont déjà peu de points. Donc est-ce que les accidents mortels qu'ils peuvent avoir sont liés à une vitesse qui est faible au-dessus de la limite autorisée? Je pense pas. Quand tu te tues en voiture, c'est que tu vas plus vite.
Non, mais il y a peut-être des comportements.
Il n'est pas dans le contrôle, surtout.
Il y a peut-être des comportements, c'est l'alcool, plus la vitesse.
Sans doute faut-il être beaucoup plus sévère dans la prévention vis-à-vis des jeunes. Enfin, pas dans la prévention, mais dans la pénalisation vis-à-vis des jeunes. Et puis faire un effort aussi de prévention beaucoup plus important à l'égard des jeunes.
Ce que disent ces associations, c'est qu'on a envoyé un message de laxisme en quelque sorte sur les routes.
Mais pas du tout. Ils ont déjà. C'est ce que j'essaie de te démontrer. Ils ont déjà que 6 points par rapport à 12.
Non, mais donc, de manière générale.
De manière générale, c'est pas tout. Pourquoi au mois de mars?
Juste le. Parce que là, ça vient rentrer en vigueur.
Non mais
c'est rentré en vigueur en mars.
C'est pas. Toi, tu crois que quand tu appliques quelque chose, immédiatement les comportements changent?
J'avais
c'est
même
pas vrai,
que
ça.
Rentre en vigueur.
C'est pas vrai.
Elle fait de la répression. Le mec qui prend l'alcool, qu'un accident, il file en cabane direct. Dans la seconde, tu vas voir qu'il y en aura moins qui boiront.
Bah donc, t'es pour la répression.
Moi, je suis pour la répression. Il y en a beaucoup moins qui vont boire avant de prendre le volant.
Quand tu changes un panneau routier,
ça sera bien plus efficace que les 5 km/h.
Vous avez tous vu des panneaux où il y a un sac noir sur le panneau.
Ouais.
Quand on a changé. Quand il y avait un panneau qui était, mettons, à 80 et qu'on le passe à 70 ou à 60, on le masque pendant un moment. Parce que sinon, quand tu le mets, quand tu fais passer la route dans la limitation inférieure, en fait, ton esprit a gardé la précédente image et tu respectes pas. Et donc, le fait de le cacher, ça permet de te rendre compte tout d'un coup qu'il a changé quand tu lèves. Donc, ça veut dire que le comportement ne change pas immédiatement. Tu comprends? Donc, quand les gens te disent ça, ils profitent de ça pour faire une opération de com quoi là-dessus quoi.
Pierre est avec nous au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes bouches.
Alors vous nous appelez, vous êtes chauffeur de maître, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous êtes le chauffeur de Carlos Tavares?
Non.
Ah non, non, non.
Vous avez donc un maître.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Chauffeur de maître. Non, mais attendez, juste un point. On appelle ça comme ça, chauffeur de maître.
Oui, oui, c'est très joli l'expression chauffeur de maître.
Travaille pour Patrouille.
Après, il y a plusieurs désignations. Il y a chauffeur de direction,
chauffeur de maître.
Voilà, chauffeur de maître, au secours. Hein.
Alors, bon, soyons concrets. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la hausse de la mortalité routière au mois de mars et le fait qu'on a supprimé le retrait d'un point pour les petits excès de vitesse?
Alors déjà, deux choses. Donc la première, je vais commencer par vous répondre, évidemment. Pour moi, oui, il y a un lien, je vous le dis, parce que il y a un paramètre que moi, en 12 ans de métier, j'ai jamais entendu parler, et même en sécuritaire, personne n'a jamais abordé ce sujet une seule fois, alors que pourtant c'est primordial, c'est la vitesse réelle et la vitesse compteur. C'est-à-dire que quand vous roulez à 50 km/h, vous avez la vitesse réelle et la vitesse compteur. Donc, c'est-à-dire que si vous roulez au-delà, vous voyez bien, enfin, le compteur est sous les yeux des gens. Mmh. Donc, vous voyez bien que c'est au-delà. Donc, oui, le retrait de points est mérité. Parce que si c'est 50, c'est 50, c'est tout, point, à la ligne. Il faut rouler à la vitesse compteur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, alors après, forcément, si on roule à la vitesse compteur à 50, peut-être qu'on roule à 45 ou 47, d'accord. Mais c'est pas grave.
Mais vous avez, vous avez vu, d'accord, je comprends vos démonstrations, Pierre, mais est-ce que vous avez vu sur les routes, puisque vous roulez souvent, un relâchement dernièrement?
Ah oui, non, mais alors, justement, c'est la deuxième chose que je voulais aborder, c'est que moi, je vous dis, je suis tout le temps sur la route, je fais entre 75 000 et 90 000 kilomètres par an.
Comme un taxi, quoi. Par an, oui, bien sûr.
Voilà.
Ouais, c'est un professionnel de la route.
Donc, moi, je vous le dis, c'est une catastrophe, c'est même au-delà de la catastrophe, je vous le dis. C'est terrible.
Est-ce qu'il faut inculper les revendeurs et les fabricants d'automobiles qui nous vendent des produits qui sont hors la loi? Puisqu'une voiture, ça peut rouler au-delà de la limitation de vitesse, ça peut aller au-delà de la loi. Ils nous vendent des objets qui ne respectent pas la loi. Puis quand ils vendent une voiture qui peut monter à 220, 230, 240, c'est totalement interdit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut imposer aux constructeurs de nous vendre des véhicules qui respectent la loi?
C'est interdit de tirer sur les gens quand on te vend des fusils.
Et deuxième chose, si tu montes dans ta voiture et que tu mets pas ta ceinture, il va y avoir des bruits. Ça va dire insupportable et tu vas la mettre. Bon, ouais. Prends ta bagnole et roule à 220. Il y a aucun bruit, à part le bruit du moteur, mais il y aura pas un truc qui t'alerte. Il y a absolument rien qui t'alerte en disant vous êtes hors la loi, il faut ralentir parce que vous êtes à 220. Il y a aucun bruit. La ceinture, il y a un bruit, mais pas à 220. Ça veut dire bien qu'on a une politique aujourd'hui qui favorise le dépassement de vitesse.
Regardez les publicités pour les voitures. Qu'est-ce qu'on essaie de valoriser la liberté, la vitesse quand même.
Moi la vitesse. Non, plus la sécurité, le confort.
On te dit, on te vend un V6, on te vend un V8, on te vend quoi? On te vend de la vitesse qui est hors la loi.
Pierre.
Non, alors par rapport à ça, on s'aventure sur un autre terrain parce que tout simplement, c'est aussi simple que ça, c'est que les gens, quand ils achètent une voiture, que ce soit en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, peu importe où, ils savent que éventuellement, s'ils ont un peu d'argent, bon, quand on achète une voiture là, c'est qu'on a de l'argent déjà, mais ils savent qu'ils peuvent aller sur l'autoroute allemande ou sur circuit. Et ça, ces deux choses-là, c'est complètement autorisé. Donc voilà, c'est fait pour ces choses-là. Mais c'est très limité.
Eh ben, ils font débrider quand ils vont sur l'autoroute allemande.
Oui, enfin bon. Mais Pierre, en tout cas, vous voyez qu'il y a un certain relâchement sur les routes. Vous l'avez constaté. Est-ce que c'est lié précisément à la fin de cette mesure? Peut-être qu'il faut attendre plusieurs mois pour faire ça. Alors dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement aura le courage de revenir sur une mesure qui était quand même plutôt populaire?
Avant les élections.
Non, mais jamais.
Avant les élections.
Ouais. Non, mais jamais.
Probablement pas.
Non, mais en même temps, on voit donc que la question de l'homicide routier, sans pour autant avoir changé les condamnations pénales qui y sont liées, n'a eu non plus aucune
influence. Aucun effet, oui,
voilà. Absolument. Parce que l'homicide routier, moi, je trouvais que c'était pourquoi pas si, à côté, on avait eu donc le volet répressif. Mais en fait, on a juste changé le nom. Mais on reste sur le même la même impunité judiciaire. Donc moi je suis désolé, ça fonctionne pas.
Pierre,
encore une
Pierre,
fois,
vous qui êtes un professionnel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le portable
là, l'appeler, mais
oui, mais je le
droit, c'est la fin.
Je connais plein de Pierre à qui je peux parler, Olivier, je connais plein de Pierre à qui je peux parler, je suis désolé.
Merci à Pierre au 32-16. Alors, mieux sanctionner les petits excès de vitesse. En fait, est-ce qu'il faut rétablir le retrait de points? C'est surtout ça la question. Quelle réponse avez-vous apporté à notre question? Vous dites non à 76,1%. Question de revenir en arrière. Dans un instant, je ne sais pas si vous avez entendu le garde des Sceaux qui a dit très clairement, il faut tenir vos gosses. Il veut restaurer la parentalité. Il veut porter plainte et punir les parents d'enfants mineurs qui ont commis plusieurs crimes ou délits. Est-ce que c'est comme cela qu'on va régler le problème de la délinquance des mineurs? On va débattre dans un instant. Mais avant cela, Julie est avec nous au 32-16. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bravo à vous, vous avez gagné des places pour les JO.
Oui, super. Merci beaucoup.
Vous aimez les bouchons?
Alors, vous avez... N'écoutez pas Mourad, parce que Mourad, de toute façon, il n'aime rien, à part Miami. Mais Julie, vous avez le choix, soit deux places pour la finale femme de hand, soit deux places pour la finale rugby à 7. Hein.
Deux places pour la finale de rugby à 7.
Vous allez voir Antoine Dupont, comme
et
ça.
Et pourquoi?
Mon fils est fan de rugby et
vous irez avec lui alors.
Et il verra Antoine Dupont parce que les petites de France de rugby à 7 seront en finale.
Attendez, vous êtes très ému, Julie, je trouve.
Allô?
Allô?
Oui, très ému.
Ah. Mais il faut pas. Ben, on est content, on est content de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre fils. D'autant plus, comme le dit Mourad, peut-être que l'équipe de France sera en finale avec Antoine Dupont, qui est considéré comme le meilleur joueur du monde.
C'est les Jeux Olympiques?
On parle des Jeux Olympiques. Alors, moi, je suis quand même avec des gens. Donc, j'ai Mourad qui me dit les JO, ça m'intéresse pas. Barbara me dit, ah bon, c'est les JO?
C'est les Jeux.
Le rugby, c'est les Jeux Olympiques?
Mais bien sûr, c'est
les Jeux. Mais pourquoi avant la cérémonie d'ouverture? Je comprends.
Non,
après, parce que c'est après. Les trucs qui sont à élimination, si tu veux, avec des poules avant, t'es bien obligé de les buter avant le jeu.
Mais là, de toute façon, c'est deux places pour la finale qui aura lieu le 27 juillet au Stade de France. Donc, vous choisissez le rugby à 7, la finale. Bravo à vous, Julie.
Et puis en tribune, vous allez vous régaler parce que le rugby à 7 en tribune, c'est super. C'est un vrai délire.
Et profitez-en bien. Continuez d'envoyer Paris 2024 au 7-32-16, car toute la journée, on gagne des places pour les JO. Dans un instant, faut-il punir les parents d'enfants délinquants? C'est ce que souhaite le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Mourad Bouchelal, Barbara Lefebvre, Jérôme Marty. Et nous avons un garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, qui veut sanctionner les parents de délinquants mineurs. Il dit tout simplement, c'est son mot d'ordre, tenez vos gosses.
Oui.
RMC, les grandes gueules.
Les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, tous les parents le savent. Les parents ont des droits, ils ont des devoirs, et aussi... Si ce n'est pas suffisant, une obligation légale. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux.
Alors pour cela, le ministre, qui veut donc restaurer la parentalité, porte un projet de loi qui prévoit, entre autres, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour les parents dont les enfants mineurs auraient commis plusieurs crimes ou délits. Alors d'un point de vue juridique, la question est de savoir est-ce que c'est applicable, parce que a priori on ne peut pas sanctionner que la personne qui a commis le délit.
Non.
Est-ce que les parents peuvent être tenus responsables? Notre avocat Charles Consigny a répondu à cette question et voilà ce qu'il dit. Ça me paraît techniquement un peu compliqué d'infliger des sanctions pénales puisque la responsabilité pénale est par définition personnelle. En droit pénal, on n'est jamais responsable que de son propre fait. Donc on verra comment est tourné ce projet de loi qui sera bientôt proposé. En tout cas, dans l'idée, est-ce que vous trouvez ça normal de sanctionner par exemple les parents de ceux qui ont commis des dégâts l'été dernier lors des émeutes? Il y avait parfois des gamins qui avaient 11-12 ans dans la rue à minuit en train d'incendier une médiathèque ou une piscine municipale. Le 32-16 pour intervenir, Jérôme Marty.
Ben, faudrait que les ministres commencent par donner les exemples, On a
de nombreux ministres, les parents de Bruno Le Maire
ont été soit arrêtés, mis en garde à vue, condamnés, etc. Raphaël Dupond-Moretti, donc le fils du ministre de la Justice, qui a été mis en garde à vue une fois, le fils de François Mitterrand, le fils de Charles Pasqua, le délit de fuite du fils de Nicolas Sarkozy, les multiples années judiciaires du fils de Laurent Fabius, la condamnation du fils de Marisol Touraine, le fils de Noël Mamère interpellé.
C'était pas des mineurs.
Oui, non, mais je veux dire par là que dès l'instant où tu dis les parents se doivent d'élever...
Mais totalement démago et hors sujet, Jérôme Marty.
C'est la responsabilité des parents.
Pas responsable de ton enfant majeur.
D'élever tes enfants dans le
c'est démago, là.
Pour le reste...
Tu voulais faire un bon coup, mais ça tombe à côté.
Pour sortir de la démagogie, cher ami,
T'es pas responsable de ton fils.
Pour sortir de la démagogie, Zora nous a rappelé l'autre jour, avec force raison, que des fois dans des familles, tu es dépassé par un gros, c'est que tu peux avoir dans la même famille, dans la même fratrie, des enfants qui réussissent extrêmement bien à l'école, qui se font un parcours exceptionnel, et à côté de ça, un enfant qui vrille et que tu n'arrives pas à tenir. Et donc tu vas aller sanctionner les parents, alors même qu'ils ont élevé leurs enfants de la meilleure façon possible, parce que un des éléments...
Non mais, l'important c'est que dans chez ces gamins-là,
payer aux parents ça.
La maman est sacralisée. C'est-à-dire, la pire insulte que tu puisses lui faire, c'est insulter sa mère. Il n'y a pas pire.
Ouais.
Parce que la maman est sacralisée. Et effectivement, je me demande si le fait que son attitude risque une sanction pour sa maman ou ses parents ne sera pas plus dissuasif que s'il risque une sanction, souvent minime, pour lui-même.
Non.
Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir trouve que l'idée de notre ministre... Et alors après, on dit on n'est pas responsable. Mais en matière fiscale, tu l'es. Tu peux hériter des dettes. De ton conjoint.
Oui, mais
tu peux hériter des dettes de ton conjoint dont tu n'étais pas responsable. Voilà. Donc je trouve que l'idée du ministre mérite réflexion.
Le code
dans
civil...
l'urgence de la répression, elle mérite réflexion.
Le code civil, quand il définit l'autorité parentale, il définit notamment aussi la question de la responsabilité des parents. Et les parents sont responsables des dommages commis par leurs enfants. Ils doivent protéger la sécurité de leur enfant, la santé, sa vie privée, sa moralité. Et ils doivent assurer son éducation. Et de ce fait, le code pénal, bien entendu, le code pénal ne va pas tenir pour responsable directement les parents des actes commis par leur enfant. Néanmoins, je précise, le code pénal, il incrimine ce qu'on appelle la mise en péril d'un mineur. C'est l'article 227-17 du code pénal. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sanctionner les parents qui ont eu une éducation, qui est une éducation défaillante, qui ont laissé leurs enfants entrer dans la délinquance. Et donc, à ce titre, je vous lis deux secondes l'article 227-17, car ça va vous montrer que M. Moretti n'a donc absolument rien inventé.
Donc, il est en train de réinventer des choses qui existent.
Exactement. L'article 227-17 vise le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Donc, c'est une infraction qui existe déjà et qui n'est jamais appliquée par les juges.
Donc, au lieu d'inventer une nouvelle loi,
Moretti
appliquer la loi comme
augmente
tu veux,
juste
comme
d'un an et augmente fois, l'amende, mais il ne fait strictement rien de plus que ce qui existe déjà et qui n'est, comme d'habitude, pas appliqué.
Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que quand même il serait judicieux d'appliquer de responsabiliser...
Non, puisque la loi est pas appliquée.
La loi existe, oui, mais... elle n'est pas appliquée.
D'accord. Alors, est-ce qu'il faut appliquer la loi? Parce que je reprends l'argument de Jérôme Marty.
Oui, il faut appliquer
explique,
la loi,
oui. Il faut faire peur aux parents.
À chaque fois. Oui, mais vous comprenez, parfois c'est difficile. Je suis désolé, mais dans ces quartiers, il y a des mères seules qui élèvent leurs enfants, qui arrivent à tenir leurs enfants. Et ces gens-là, on leur donne pas de médaille. Et toi, Jérôme, avec ton discours victimaire.
Mais ça, c'est Jérôme.
C'est insupportable.
C'est pas ce que je t'ai dit.
C'est un discours qui ne passe plus en France.
Je t'ai dit que l'autre jour, Zora nous avait rappelé que dans la même famille, la même famille, tu pouvais avoir des enfants extrêmement bien élevés, respectant les choses, réussissant à l'école, et un enfant qui vrille. Donc tu peux pas taxer cette famille-là de mal élever ses enfants, puisque dans les enfants, il y en a
qui... Oui, mais on met pas les parents responsables. On essaie de dissuader les enfants par une répression sur les parents, ce qui va les dissuader. On a une urgence à dissuader, voilà. Après, pour éduquer les enfants, c'est compliqué, parce que pour éduquer un enfant, il faut déjà être éduqué soi-même, ce qui souvent n'est pas le cas des parents. Voilà. Mais bon, moi je trouve que ce projet de loi... est excellent.
Oui, mais d'autre part, le TIG pour les parents, les travaux d'intérêt généraux pour les parents d'enfants et les condamnations, ça existe aussi. C'est l'article 12.5 qui place les parents aussi au cœur de la responsabilité pénale, puisque les parents sont associés à la sanction pénale que doit suivre leur enfant. Donc, encore une fois, Monsieur Dupond-Moretti ne change rien. Il faut changer aussi la question de l'âge de minorité, l'excuse de minorité. Il va falloir impliquer davantage les parents. Et juste une chose sur les mères célibataires, etc. On en a tous eu autour de nous, et j'en profite pour saluer ma belle-mère, qui avait 5 enfants, qui travaillait à 5h du matin, qui habitait dans une cité, et elle a tenu ses enfants, et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, non seulement ses enfants, mais ses petits-enfants, il n'y en a pas un qui déconne, parce que c'était une femme qui tenait bien sa famille, et j'en profite, je la salue.
En revanche, je pense qu'il faut responsabiliser ses parents, ses pères démissionnaires,
bien
parce que je ne comprends pas où sont les pères,
donc
les pères, il faut aller les chercher, les punir. Mais il faut arrêter avec ce discours victimaire, parce que pourquoi ? La loi existe, en fait, on ne l'applique pas. On ne l'applique pas parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Ah oui, mais vous allez rajouter de la souffrance à la souffrance, vous comprenez, c'est tellement difficile pour ces gens-là. »
Hein, c'est juste que la loi n'est pas appliquée parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'appliquer.
Non, tu sais pourquoi ? Parce que le juge.
Non, parce que le juge, il est là-dedans, dans ce truc victimaire.
Ah oui,
bien sûr. Ah, les pauvres, les pauvres. Voilà.
On va voir comment ça se passe au tribunal. C'est exactement ça. Se dire, ah, mais vous comprenez, c'est pas si facile pour eux.
Et justement, ces mères seules qui, elles, sont seules à tenir bien leurs gosses, à les empêcher de sortir, à bien les serrer, elles, on les aide pas, justement. Elles n'ont pas d'aide à la crèche pour faire garder leurs gosses, etc. Par contre, les autres qui laissent les enfants dehors et qui pourrissent la vie de tout le quartier, oh, bah, ils sont tranquilles, ils ont toujours le logement social. Mais elles, qui tiennent leur famille, qui vont bosser à 5h du matin, elles ne sont pas aidées, jamais. Et moi, j'en connais, qui sont aides-soignantes à l'hôpital et qui habitent à l'autre bout de la banlieue, elles tiennent bien leurs gosses, leurs enfants, ils marchent droit, et ben elles ne sont pas aidées, ni mais pour avoir un logement plus près de leur travail.
On parle toujours des problèmes.
Les autres,
un arbre qui pousse fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Donc on arrête avec les mères célibataires, elles ne peuvent pas s'en sortir, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a des gens, comme tu l'as dit, qui n'ont pas d'éducation et qui n'ont pas de valeur, c'est tout.
Et pourquoi on n'applique pas ces lois, puisqu'elle est, si ça existe
ça demande
déjà
au juge.
Parce qu'on a une certaine
et
morale.
Et monsieur le garde des Sceaux, il le sait pas, lui, que la loi, elle existe.
Il le sait.
Eh ben voilà, ben, qu'il fasse plutôt une circulaire et des directives au juge, en leur disant, maintenant, vous faites appliquer la loi telle qu'elle est, au lieu de faire de la com.
Parce que la finalité, la finalité de d'Éric Dupond-Moretti, c'est les élections européennes. Et donc là, on essaye de prendre, de tailler les croupières au RN et on fait passer un truc. Voilà, on sait très bien que ça sera pas plus appliqué que la précédente loi, mais on le fait parce qu'on fait de la com et que ça va avoir une persistance jusqu'aux élections, en disant, on a fait quelque chose.
Et ben donc, nous avons relevé la supercherie de Monsieur Macron aujourd'hui au GG à 11h33.
Moi, je me souviens que Darmanin, pendant les émeutes, il disait, certes, l'État est là pour protéger, mais à un moment donné, l'État peut pas tout faire. Et quand c'est des gamins de 11-12 ans, je suis désolé, Jérôme, à un moment donné, ce sont les parents. On peut toujours demander à la société de régler le problème.
Et peut-être. Arrête de me
parce que tu m'as énervé.
Arrête de me désigner comme le laxiste, le truc.
Je t'ai commencé par nous parler du fils de Sarkozy.
Je t'ai donné l'exemple.
T'es le symbole même.
Je te dis pas qu'il n'y a pas des parents qui abusent. Je te dis qu'il y a dans certains cas, tu ne pourras pas appliquer cela.
Dans ce cas-là, le juge n'est pas un crétin. Il peut faire la distinction entre des parents qui sont débordés parce qu'effectivement, tu peux avoir. On est tous parents et on sait que c'est pas ça.
Il y a des
ados qui partent en vrille, etc. Mais ça, le juge, il est malin. Il peut faire la distinction entre les parents débordés qui ont besoin d'être aidés et les parents qui sont démissionnaires qui ont besoin d'être actionnés.
Et les parents qui sont complices. Moi, je peux vous parler de parents qui ont des enfants et leurs enfants ramènent du pognon à la maison alors qu'ils travaillent pas, ils roulent dans des belles bagnoles, ils sont au top de la mode, et il n'y a pas un parent pour leur dire d'où vient ce pognon. Moi, je peux vous dire que quand j'ai des jeunes, si j'avais ramené du pognon comme ça à la maison, je me serais pris deux tartes dans la tête très rapidement.
Voilà.
Et les parents sont complices, parce que ils sont très contents qu'on leur ramène tout ça à la maison sans chercher d'où ça vient.
Voilà.
Dis bien certains parents, parce que sinon, je sens que ça va te tomber sur la tête, tu vas pas comprendre ton malaise.
Certains parents.
Bien sûr, mais on est d'accord.
Sinon, il y a l'association
la
des parents qui va tout
faire. On est d'accord, bien sûr. D'appliquer ces règles.
Et c'est même une minorité. On n'aura pas plus le courage à 3 ans qu'à 2 ans.
Une fois, c'est la question des magistrats. Donc, on a un problème avec les juges. Je suis désolée, c'est le ministre de tutelle de ces magistrats qui n'appliquent pas la loi, c'est Monsieur Dupond-Moretti. Monsieur Dupond-Moretti qui fasse son travail, qui s'adresse à ses fonctionnaires. Ce sont ses fonctionnaires, il doit leur donner des directives. C'est tout, il ne les lui donne pas. Il vient nous faire de la com. Non.
Moi, pourquoi mes copains ont mal tourné? Moi, j'ai plein de copains qui ont mal tourné, mes copains d'enfance.
Et parce que leurs parents,
je suis celui qui a un peu bien tourné. Pourquoi? La répression que j'avais à la maison. Ça vient pas d'ailleurs. Hein,
la plante, si elle n'a pas un tuteur pour la tenir droit, elle pousse tordue, c'est tout, point. Voilà.
Moi, j'ai tremblé quand je rentrais, je pouvais pas faire n'importe quoi.
Et
s'il n'y a pas cette autorité, tu t'en sors pas.
Allez, faut-il.
On a perdu Olivier là.
On a perdu Olivier.
On est en grande gueule.
On savait plus quoi dire.
Alors, on sait qu'Alain n'est pas là.
Vous savez que dans les grandes gueules, on se dit tout.
Oui.
Et pendant que Mourad parlait, c'était très intéressant ce qu'il disait. J'avais un œil sur mon écran de contrôle qui est sur les chaînes info. Et en ce moment, il y a le spectacle.
Sans
le problème, c'est que vous allez voir. Ça m'énerve. Je vous donne envie d'aller voir parce que c'est d'un kitschissime.
Ah oui.
Ah oui. Il y a la cérémonie. En fait, on rallume la flamme à Olympie. Le site antique grec, il y a Hidalgo qui est sur place.
Est-ce qu'elle pourrait y rester?
Il y a un type qui court avec les deux bras en l'air. Je sais pas.
Avant, il y avait les danses.
On dirait un remake d'un vieux film de Mel Brooks.
Ça va parler aux plus jeunes. Mais
2h moins quart avant Jésus-Christ.
Voilà, j'espère, je pense que la cérémonie sur la scène sera plus spectaculaire que ce qu'on est en train de vivre.
Alors, les journalistes qui courent à côté, c'est incroyable.
On dirait une parodie de pub.
Oui.
On dirait une parodie de pub, quoi.
Alors, sur un terrain en plus la pelouse elle est défoncée.
C'est pas le jardinier du PSG.
Visiblement il y a des problèmes de sécheresse en Grèce.
C'est Olympie, c'est le réchauffement climatique.
Ils n'ont pas arrosé.
Roland aurait fait une parodie de la cérémonie d'ouverture, ça aurait été pareil.
Pas cérémonie. Je vais vous dire, restez sur
RMC Story.
Restez sur les grandes gueules et on continue dans un instant de discuter sur la volonté du gouvernement de sanctionner les parents de délinquants des mineurs. Est-ce qu'on y croit? Tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
Il va souffler sur l'Afrique. La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec cette question qu'on vous pose. C'est la bonté du gouvernement, sanctionner les parents d'enfants délinquants. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Barbara Lefebvre, très justement, nous expliquait que ça existait déjà dans le code civil, mais visiblement, c'est pas appliqué.
Code pénal.
Dans le code pénal, pardon. Et comme souvent en politique, on veut faire voter des lois qui existent déjà. Et donc là, Monsieur Dupond-Moretti défend un projet de loi qui pourrait punir ses parents de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Est-ce que c'est une bonne idée?
Pas.
Est-ce que c'est efficace? Alex est avec nous. Bonjour, Alex. Bonjour Alex.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lozère. Faut-il sanctionner les parents d'enfants délinquants?
Je dirais pas seulement. Je dirais il faut sanctionner les parents, oui, mais il faut sanctionner les enfants aussi. Il faut les responsabiliser parce qu'aujourd'hui, ils ont rien du tout.
Ils sont jugés comme des mineurs, donc effectivement, ils prennent des peines un peu plus faibles.
Des peines
ou pas du tout.
Ou pas du tout. On dirait. C'est plus souvent pas du tout qu'ils prennent des peines, on dirait.
Oui, surtout vu ce qu'on a vu dans les dernières émeutes, mineurs, excusez-moi, ça me fait rire. À 16 ans, quand t'es capable de faire ce qu'ils ont fait, t'es plus mineur.
Vous êtes parent, Alex?
Oui, je suis parent, j'ai 2 enfants. Je suis confronté avec mon grand qui a des problèmes depuis que je suis divorcé. Donc je suis pas célibataire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'entends tout le temps les mamans célibataires, les mamans, les mamans, les mamans.
Oui, il y a des papas aussi qui élèvent seuls les enfants.
Ils ont du mérite.
Voilà. Moi, j'ai la maman, elle s'en fout royalement.
Ah oui, carrément.
Qui a fait des conneries. Aujourd'hui, j'ai payé. Sauf que, il faut que mon fils, il en subisse les conséquences aussi. Donc, j'ai contacté le maire de ma commune pour qu'il balaye les rues.
D'accord.
Très bien.
Et il veut bien, le maire? Est-ce que le maire veut bien? Parce qu'il est capable de vous dire que non.
Il n'a pas le droit.
Voilà.
Il n'a pas le droit.
Voilà. Alors, je vous précise, par exemple, Alex, que dans un établissement scolaire, quand des élèves dégradent, moi, par exemple, j'étais pour que quand un élève, il dégrade une table ou quoi, il nettoie. Eh ben non, on n'a pas le droit. Parce qu'ils ne doivent pas tenir de produits ménagers, qui peuvent être toxiques, qui peuvent faire des allergies, l'éponge, c'est trop compliqué, le balai, c'est trop ceci, c'est trop cela. Alors que moi, je suis désolée, un élève qui crache dans un couloir, moi, je lui fais nettoyer tout le couloir. Et c'est pas la dame de service qui nettoie, c'est lui qui va nettoyer les 3 couloirs. Au lieu d'en nettoyer un, il en nettoie 3. Eh ben, c'est interdit. On n'a pas le droit. Voilà.
C'est une aberration. Parce que le gamin était d'accord?
Mais de toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il fait une connerie, il assume.
C'était une bonne idée, mais visiblement, c'est plus compliqué que ça à mettre en place.
Et voilà.
Oui, parce qu'on est dans un pays où il faut protéger, toujours protéger, toujours surprotéger, je dirais. Voilà. Au bout d'un moment, je suis désolé, déjà, une loi contre une gifle, un gamin, c'était du grand n'importe quoi, mais là, on a atteint le pompon, quoi. On a atteint le pompon.
Merci Alex. Donc Alex, il dit d'accord, pourquoi pas sanctionner les parents, mais il faut avant tout sanctionner celui qui est l'auteur des faits, c'est-à-dire le mineur, même s'il est mineur. Rose est avec nous. Bonjour Rose.
Bonjour.
Vous nous appelez de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Alors faut-il effectivement sanctionner les parents qui sont défaillants? Parce qu'il faut sans doute faire la distinction entre les parents qui sont un peu dépassés par les événements. Oui. Il y a des gamins qui sont intenables, il faut le dire aussi. Et puis des parents qui en fait n'ont rien à faire de leurs enfants.
Oui, donc les parents sont-ils fautifs? Alors naturellement, pour les parents qui sont complètement défaillants, naturellement, là, je pense que c'est le coup de bambou, j'ai envie de dire, le coup de matraque. Et c'est ceux-là, il faut vraiment les prendre entre deux yeux et vraiment voir ce qu'il faut faire avec ses parents qui sont complètement à l'ouest, j'ai envie de dire. Après, attention, il y a des enfants qui sont très, très difficiles.
Oui, il y a des enfants rois aussi.
Et attendez, vous n'êtes pas forcément des enfants rois. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
Oui, mais avec Mourad, ça va être difficile.
Non, je pense que ça va aller. Et donc, il y a des parents, il y a des enfants qui sont vraiment difficiles. Je suis bien placée pour en parler. parce que j'ai eu un enfant difficile. Et en fait, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours, même si vous raccrochez au nez, il faut toujours dire ce que vous avez à dire. Et comment dirais-je, par exemple, si je prends l'exemple du petit Naël pour le refus de tempérer, vous voyez, je pense que par exemple un enfant comme ça, eh ben vous savez, à un moment donné, vous vous rendez bien compte s'il fait des conneries ou pas. Donc il faut lui dire, par exemple, pour ça, tu fais des conneries, tu fais ci, tu fais ça, mais il faut prendre le grand truc. Vous voyez, pour moi, ben, je vais vous donner l'exemple du mien. Quand il y a eu ce truc sur Naël, moi, je j'ai pris le mien entre deux yeux, j'ai dit, écoute, tu vois, si les flics te demandent de t'arrêter, tu t'arrêtes. Alors, écoutez-moi, il a un petit peu grogné, nanana, je dis, pardon, je répète. Si les flics t'arrêtent, tu t'arrêtes. Et à force de lui dire, parce que je lui dis, écoute, si tu fais une connerie, moi, je te dis, franchement, je ne serai pas là. Hein, voilà. Donc, mais moi, je voulais mettre surtout l'accent. Je voulais mettre surtout l'accent sur ce qu'il faudrait faire avant d'en arriver là. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous avez 14, 15 ans, vous savez, on a tous été des enfants. On se dit, bon, c'est bon, allez, à 16 ans, c'est terminé. Et hop, je fais plus rien. On croit qu'on va vivre comme ça sans rien faire ou en faisant des conneries. Et les parents, ben, ils n'ont pas de levier à ce moment-là. Ils n'ont pas de levier parce qu'ils sont responsables de leurs enfants jusqu'à 18 ans. Donc, mettre l'école obligatoire jusqu'à 18
oui, mais
ans.
Ou le service militaire.
Merci pour qu'on fasse garderie, donc pour les garder en garderie jusqu'à 18, quoi.
Non, merci.
C'est le service militaire qui demande l'aide, tu veux plus, toi. Hein.
Bah, non, parce qu'on fait déjà garderie beaucoup. Alors, si on fait garderie en plus jusqu'à 18, jusqu'à ce qu'ils aient la majorité,
oui, parce que,
ça va
Rose,
être formidable.
Là où votre argument se retourne, c'est que lorsqu'on s'aperçoit que des mineurs de 12, 13 ans et même 11 ans étaient dans la rue l'été dernier, déjà, il n'y avait plus d'école à ce moment-là, ils sont censés être scolarisés, donc cadrés, et ça empêche pas les conneries, donc l'école peut pas tout, c'est ça aussi qui est constaté. Merci Rose pour ce coup de fil. Rose est une fidèle des GG depuis très longtemps, on l'embrasse. Christophe est avec nous, bonjour Christophe.
Ah, bonjour les GG.
Vous êtes chauffeur routier du côté des Pyrénées-Atlantiques à Anglette.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'avais ma fille à l'époque qui avait 12 ans, donc elle faisait connerie sur connerie, donc c'était à l'époque du confinement. Ça date quand même. On l'a laissé à la maison, en lui faisant confiance, parce qu'elle voulait pas venir. Donc, on avait perdu le pouvoir. Donc, suite à ça, on est revenu. Elle avait fait une soirée. Tout le monde est rentré. Il y avait 50 personnes. On est rentré le lendemain. C'était un désastre chez moi. Donc j'étais énervé, je lui ai mis une petite tarte sur la tête. Ma voisine, elle a vu ça, elle lui a monté le cerveau. Elle a appelé la gendarmerie, c'est le psych qui est venu me chercher.
Et oui.
Juste pour
une tarte sur la tête. Et pourquoi votre voisine vous dénonce ?
Parce qu'on ne s'entendait plus.
Ah oui.
Voilà, donc...
Et lui mettre une tarte à la voisine aussi.
Non, Mourad, je préconisais la violence.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, ma fille a 18 ans, et a fait à Rennes ses journées, donc elle vit la nuit.
Ah mince. Vous n'arrivez pas à reprendre un peu les choses en main. C'est compliqué,
non,
18
non,
ans.
Ouais. Non, et les gendarmes, le juge m'a dit, si vous la touchez, c'est direct Gradignan.
Ah oui. Mais elle fait des conneries, parce que vivre à la nuit, c'est pas forcément faire des conneries.
Ah
quoi.
Oui. Le toit, ils ont tapé un vieux, lui ont volé le portefeuille.
Ah oui. Ah oui, c'est plus que des conneries. C'est.
Elle habite encore chez vous ?
Oui.
Excusez-moi. C'est compliqué pour lui. Vous continuez donc à l'héberger, donc.
Oui.
Il va pas la mettre dehors, c'est ça.
Moi, je voulais la foutre dehors, mais ma femme. Elle veut pas parce qu'elle l'aime, quoi.
Ah oui, non, mais oui, ça, bien sûr, mais ça, j'entends bien. Mais moi, je connais des gens qui aimaient leurs enfants, mais quand leur enfant en arrive même à être violent vis-à-vis d'eux.
C'est pour ça que quand j'entends.
Et le juge, il essaie pas de vous aider. Enfin, je veux dire, vous avez pas d'accompagnement.
Non, on l'a placée en foyer, elle est rentrée abrutie, elle est ressortie encore plus abrutie qu'elle est rentrée.
Eh oui, voilà. Votre intervention est très importante parce que si on écoute les discours simplificateurs d'Olivier ou de Barbara, on a l'impression que tout le monde, que tout le monde doit élever bien ses enfants et que c'est la faute des parents si les enfants dysfonctionnent. Moi, il se trouve que dans ma patientèle, j'ai au moins 3 cas de gens qui me disent je n'y arrive plus. Ouais, je ne sais pas comment faire. J'ai tout essayé et je n'y arrive plus.
Et puis, quand on entend ce témoignage, c'est très respectable.
Bien sûr.
Avant, je parlais mal à mes parents, je prenais une branlée de première et j'en suis pas mort pour autant.
Eh bien, on est d'accord. Au moment où on me menaçait d'aller donc, en pension, j'étais terrorisé par la pension.
Excusez-moi, Christophe, vous ne faites pas partie des parents défaillants parce que vous avez essayé à votre façon de la redresser et elle ne s'est pas redressée. Donc, moi, je suis désolé, vous n'êtes pas concerné par les sanctions du code pénal.
Tu as des enfants qui t'échappent lors du divorce, par exemple.
Non, il n'est pas concerné par le code pénal.
Lors du divorce, par exemple, tu as des enfants qui t'échappent et où les mères n'arrivent pas à faire face à cette fracture-là et à cet enfant qui leur échappe.
Encore une fois,
c'est facile de jeter la pierre.
Mais non, puisque celle-là, on ne parle pas de cette parente-là. Là, cette parente-là, elle est dépassée, elle n'est pas défaillante.
Il n'y a aucune responsabilité.
C'est ceux qui ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité.
Alors, tu n'es pas au prétoire et quand tu dis, mais les juges ne l'appliquent pas dans 100% des cas, etc.
Mais je vais te dire,
tu sais pas,
c'est les mêmes que les parents qui ne viennent jamais chercher les bulletins scolaires. C'est les mêmes qui ne viennent jamais au conseil de discipline. Eh bien oui, c'est les mêmes.
C'est qui les mêmes?
C'est les parents qui sont démissionnaires. Ça n'a rien à voir avec des parents dépassés.
C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Mais Jérôme, on est d'accord avec toi et on l'a dit.
Simplificateur.
Le juge sera là pour faire la distinction entre le parent défaillant et le parent démissionnaire.
Il ne le fait pas. Et donc, dans la mesure où il ne le fait pas, puisque on dit depuis le début, on te dit que la loi qui fait 2 ans et 30 000 euros, elle n'est pas appliquée. Donc, celle qui fait 3 ans et 40 000 ne le sera pas plus. Mais dans la mesure où il ne le fait pas, au moins, ne jetons pas la pierre.
Ah, bah alors, continuons comme ça.
Mais on n'a pas jeté la pierre.
C'est trop facile de décentraliser.
Pierre contre Jérôme Marty.
Voilà.
Faut-il sanctionner...
Attendez, on va poser la question.
Faut-il sanctionner...
Je pense que la réponse va être non.
Faut-il sanctionner...
Voilà.
Il n'y a pas tellement de surprises. 89,4% oui, il faut sanctionner les parents.
Mais au moins, les gens sont informés qu'ils existent déjà.
Il vit sur une autre planète. Il est dans un autre monde. Mais oui, c'est le monde Disney. Il est allé une fois à Disney et il pense que c'est le monde. C'est le monde.
Puisqu'il vient de citer Estelle Denis, nous allons accueillir Estelle Denis, effectivement, puisque le débat continue sur RMC, RMC Story. Bonjour Estelle, avec t-shirt sur lequel il y a marqué Amour.
Amour avec des paillettes. Voilà, c'est ça la vie aussi.
Oui,
c'est ça la vie. Bon, écoutez, on n'a pas un sommaire très gai non plus. Alors, nous allons parler de ce sondage qui nous apprend que 3/4 des Français sont mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. D'accord, pas d'accord avec ça. Écoutez, nous en parlons dans un instant avec vous au 32-16.
Je crois que Barbara fait partie des 3/4.
Je pense aussi.
Alors, c'est ça, c'est 74%.
Je pense même qu'elle est dans le premier quart.
3/4.
Et 3/4.
Nous allons parler du président de la SNCF.
Monsieur Farandou,
qui octroie de gros avantages aux salariés du groupe, alors sur les retraites, des primes, etc.
Pour éviter les grèves.
Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? Voilà, ça sera notre question de 13h. Et enfin, l'explosion du nombre de loyers impayés en France. 300% d'augmentation en 3 ans. Est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats?
Manu Militari.
Ouais, mais qu'est-ce que tu fais?
Ça dit quelque chose quand même de la crise sociale.
Ça dit quelque chose de l'appauvrissement des classes populaires et des classes moyennes.
Le propriétaire qui a un crédit sur le dos pour payer, il n'est pas responsable. Voilà, on ne peut pas être responsable de ce qui se passe dans la vie des gens. Nous, on a un bail, on a un contrat, s'il n'est pas respecté, point barre.
Mourra des propriétaires.
Oui, ça se sent. D'ailleurs, on l'a bien sorti. Il est surtout bailleur, surtout.
Non, mais simplement, tu ne peux pas être responsable de ce qui arrive aux gens. Après, on peut trouver des solutions, mais la première des solutions, c'est qu'il libère le local.
La plupart des locataires bailleurs ont un appartement d'ailleurs en bail et la plupart sont des retraités.
J'en profite toujours pour vous rappeler que j'ai un pasteur comme locataire qui n'a pas payé le loyer sur un mois et que c'est un énorme péché dont il devra répondre devant Dieu.
Oui, je lui rappelle plusieurs
fois. Allez, mes chers grand-gueules, on va laisser Estelle et on va se retrouver demain avec une nouvelle tablée composée de Joël Dagosséry, Didier Giraud et Charles Consigny. À demain, bon après-midi.
La plaie, je vous dis, c'est un péché. 15h, Estelle Midi.